La voix de l'actu. La voix de l'actu reçoit aujourd'hui Angamé Yahyazadeh, porte-parole de l'association toulousaine Le Soulèvement National Iranien. Le régime islamique règne d'une main de fer sur le peuple iranien depuis 45 ans. L'opposition y est violemment réprimée et la jeunesse réduite au silence. Cependant, cet autoritarisme cache de plus en plus mal la fragilité des mollahs au pouvoir, comme on l'a vu en 2022 lors des manifestations en soutien à Mahsa Amini, jeune kurde de 22 ans morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal ajusté. Le régime a été largement dépassé par une jeunesse éprise de liberté et d'autonomie. Dernièrement encore, des Iraniens n'ont pas hésité à manifester publiquement leur soutien à Israël. Il faut dire que l'Iran s'est engagé dans un affrontement larvé contre l'État hébreu, car si le pogrom du 7 octobre en Israël a bien été perpétré par le Hamas, c'est la main de l'Iran qui derrière est à la manœuvre. Beaucoup d'Iraniens aujourd'hui ne sont plus dupes du jeu de leurs dirigeants. Et en France, des réfugiés iraniens s'organisent afin de relayer la parole de ces Iraniens révoltés là-bas contre l'islamisme au pouvoir. C'est le cas notamment d'Angamé Yahyazadeh, actuellement porte-parole de l'association Le Soulèvement National Iranien. Elle est arrivée en France il y a 6 ans. Elle est de toutes les manifestations contre le régime islamique et elle lutte fermement pour que l'Iran sorte de ce demi-siècle d'obscurantisme.
L'association Soulèvement National Iranien, fondée à Toulouse en octobre 2022, après l'assassinat de Mahsa Amini en Iran. C'est ce soulèvement, quand ça a été commencé en Iran, ça a pris une crise de situation dans le pays. Cela qui a fait, nous, en tant qu'Iraniens, diaspora, nous sommes été un petit peu obligés de réagir justement pour nos familles, pour les amis qui vivent toujours dans le pays.
Quel est l'objectif de votre association, le Soulèvement National Iranien? Parce que je précise que vous faites partie aussi du collectif Femmes, Vie et Liberté.
National Femmes, Vie et Liberté, c'est ça. Exactement. L'objectif de notre association, c'est juste porter la voix du peuple en Iran, c'est-à-dire de faire l'écho de tout ce qui se passe en Iran. Ça, c'est vraiment notre objectif. Porter la voix du peuple en Iran, c'est ce qui est très important, parce que l'oppression existe toujours depuis 45 ans en Iran, mais ces dernières 2 années qu'on a vécu grâce aux médias internationaux, nous avons la possibilité de porter cette voix beaucoup plus fort, parce qu'il y a justement il y a la place pour le faire. Et avant, on manquait la place d'international, de médias internationaux, qui nous donnent cette place pour pouvoir porter la voix. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le monter, nous avons la possibilité de le porter, donc on le fait.
Il y a toujours eu quand même, comme ça, en dehors de l'Iran, des réfugiés qui dénonçaient la politique du régime des mollahs. Je me souviens, par exemple, ici à Toulouse, des manifestations lorsque c'était Ahmadinejad, avec des grosses mobilisations des Iraniens de Toulouse pour contester, évidemment, le régime des mollahs. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire comment vivent aujourd'hui les Iraniens, la situation et surtout la jeunesse irasienne? Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, en effet, il y a eu de grosses mobilisations ces dernières années avec des répressions. On a vu notamment sur les réseaux sociaux des femmes fortement mobilisées contre le port du voile, avec des conséquences, puisque certaines ont perdu la vie. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le régime des mollahs s'est assoupli ou est-ce qu'au contraire, il est beaucoup plus oppressif?
C'est-à-dire que face à ce régime barbare et patriarcat, certains peuples, on va dire certains parties du peuple en Iran, ils n'ont pas forcément la possibilité de se montrer parce qu'ils risquent toujours le danger. Du coup, en Iran, il y a toujours cette mobilisation qui existe que ça continue. Il y a plus en plus des gens qui participent, il y a plus en plus des artistes qui rejoignent les peuples. Ça, c'est cool. Mais il y a toujours cette peur de dire qu'est-ce que je vais perdre. Avec l'augmentation de taux de dollars en Iran, c'est impossible de pouvoir vivre. La pauvreté s'augmente plus en plus, mais tous les jours, vraiment, le niveau économique, l'Iran est dans une crise imaginable. Pendant ces dernières 45 ans, jamais nous avons vécu une situation comme ça. Donc, il y a toujours un côté de peur qui existe dans les gens, dans les peuples, qui ne veulent pas forcément se montrer. Dans tous les cas, ils savent très bien que s'ils se montrent présentiellement, ils vont être visés.
Vous-même, vous avez quitté l'Iran. Quelle était votre situation là-bas? Parce que vous l'avez quitté jeune quand même. Hein. Mais quelle a été votre jeunesse en Iran?
Une situation très dure qu'on s'habitue. Moi, j'ai passé un petit peu au début de mon université, toute mon éducation de lycée et collège là-bas. J'ai passé presque ma jeunesse là-bas et c'était tellement la situation est précaire aussi à la fois que tu t'habitues à la situation et tu fais avec. La jeunesse aujourd'hui, par contre, pas ma génération, plutôt la génération après moi, c'est une génération qui décide de faire les choses à l'échelle de leur envie et ils ne se laissent pas y aller. Moi, je me rappelle, je prenais des cours de violon, je marchais dans la rue avec mon violon et ils m'ont arrêté une fois, ils ont cassé mon violon, et ils n'ont même pas ouvert la box et ils ont dit que c'est une arme. Et j'ai dit, mais non, c'est un instrument musical. Et ils ont dit, non, c'est une arme. Donc, ils ont cassé ils ont jeté comme ça et ils m'ont amené au gendarmerie, au commissariat.
Oui, c'est de l'intimidation permanente, quoi.
Permanente, vraiment, ça s'arrête pas. Donc, ça fait que, à la fois, moi, je pouvais arrêter complètement l'instrument ou tout mon chemin de vie parce qu'il n'y avait pas la possibilité de continuer. Ou bien il faut affronter, il faut toujours s'affronter face à ce régime. Mais la jeunesse aujourd'hui, ils ne se laissent pas y aller, donc ils affrontent à fond. Et c'est ça la situation aujourd'hui du régime islamique et qui est très très fragile. C'est que combien d'étudiants, combien de jeunes de l'âge de 14 ans, ils veulent arrêter. Et les prisons, ils n'ont plus de place. Combien de personnes vous voulez arrêter dans la rue? Combien de personnes vous voulez les forcer à mettre le hijab? Donc, il y a vraiment une évolution depuis 2-3 ans en Iran qu'on les voit carrément, même dans les médias.
On voit bien que c'est un régime, en effet, fortement, fortement perturbé. Ces derniers temps, évidemment, il y a une situation internationale de plus en plus compliquée, difficile, notamment depuis le 7 octobre et le pogrom contre les Juifs de l'État d'Israël. Donc, on le rappelle, hein, de nombreuses victimes et puis des otages qui sont encore entre les mains du Hamas. On subodore que l'Iran est derrière cette attaque. L'Iran a également dernièrement attaqué Israël, a bombardé Israël après que Israël ait lui-même donc attaqué un établissement où il y avait les gardiens de la révolution à Damas. Comment vous comprenez la situation internationale aujourd'hui? Comment la percevez-vous de France?
La crise de légitimité en Iran, de régime islamique, pardon, ça a été beaucoup augmenté après le 7 octobre. À partir de ce moment-là, le monde entier, je pense qu'ils ont compris ce que le peuple iranien veut montrer au monde entier. Ils ont compris à quel point la source de tous ces terroristes, c'est le régime islamique. Le Hamas, le Hezbollah, ils sont tous, les Houthis, ils sont tous des pions du régime islamique. Ils ont été tous créés par le régime islamique. Donc, nous sommes face à une mur qui est en train de fragiliser petit à petit pour s'effondre complètement. Mais cette mur est très large et très, très, très lent. Je pense pense que nous avons à la fois la chance que l'Israël se positionne face à cette situation en Iran et surtout de bien marquer que nous avons problème. Ils ont, Netanyahu, il a marqué plusieurs fois dans ses prises de parole que notre but, c'est bien le régime islamique et pas forcément le peuple. Et aujourd'hui, on essaye plus en plus, les peuples en Iran, dans le pays, et aussi les diasporas, d'avoir un contact beaucoup plus proche avec des Israéliens, justement pour montrer que nous sommes complètement contre ce régime patriarcal.
C'est vrai qu'on a vu des Iraniens, et c'est assez chose exceptionnelle, puisque je pense que c'est le seul pays dans la région où on a vu ça, des Iraniens apporter un soutien public à Israël et aux Juifs qui avaient été tués à la suite du pogrom du 7 octobre.
Bien sûr,
il y a des manifestations même en Iran.
Bien sûr, il y a des tags. Les gens, ils taguent des petites phrases en Iran comme quoi, vas-y Israël, but. Nous voulons absolument pas la guerre. Nous sommes contre la guerre et moi personnellement, et je pense que tous les Iraniens, le peuple iranien, nous, on ne veut pas la guerre. Je me permets, en tant que représentant des collectifs et des associations en France, de vous dire, nous sommes complètement contre la guerre et on condamne complètement cette guerre d'Israël et l'Iran. Mais à la fois, il faut bien réfléchir que cette guerre est complètement un jeu. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la situation... la crise qui vit aujourd'hui le régime islamique lui permet pas absolument de attaquer un pays comme Israël. C'est juste pour dire à quel point si on reçoit une attaque, bien sûr, on répond. Mais cette attaque, cette réponse n'a absolument pas de sens. Et c'est ça la force du peuple iranien, c'est qu'ils ont compris. Après 45 ans, ils ont dans une situation, ils sont complètement très conscients de les décisions du régime islamique. Ils connaissent très bien ce régime qui ment, qui traite leur peuple. Et tous ces enjeux, tous ces jeux qui présentent et qui met en avant le régime islamique, c'est juste pour qu'il fait peur à ces peuples si jamais le peuple ne sort pas dans la rue. Mais je pense que c'est la situation que le peuple en Iran, ils doivent utiliser pour sortir dans la rue et finir ce régime patriarcal.
Faites bien attention de dire régime des mollahs ou régime islamique et pas Iran, parce qu'il est bon de rappeler en effet que le régime islamiste est imposé à la suite d'une révolution à la fin des années 70 à peu près, mais que l'Iran n'a pas été islamique, c'est pas une terre d'islam au départ, c'est une religion qui s'est imposée assez tardivement et qui a remplacé notamment toute la civilisation perse et la religion zoroastre. Et donc c'est une religion qui s'est imposée, et notamment en partie aussi avec l'aide de la gauche. Par exemple, le parti communiste de l'époque, le parti Today, avait apporté son soutien. Je dis ça parce que aujourd'hui on voit une certaine gauche en France notamment prendre des positions assez étranges, notamment contre Israël, et dernièrement on a vu même ils n'hésitaient pas à prendre plus ou moins la défense du régime des mollahs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous poserai évidemment les questions après sur la question du féminisme et puis du port de voile qui évidemment clive là aussi les mouvements féministes en France, mais d'abord plus particulièrement sur presque depuis 45 ans sur ce rapport que peut avoir une certaine gauche avec les mouvements islamiques.
Le mauvais regard finit par une mauvaise décision, et je pense que nous avons déjà vécu ça exactement en 1979, qui nous a mis vraiment un coup dans le pays, mais par contre ce coup vraiment... Ça a pris longtemps, ça a pris 45 ans, mais aujourd'hui, le peuple est complètement conscient de la position de gauche des Occidentaux sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a fait une fois confiance, c'était à l'époque de François Mitterrand, qu'ils ont bien accueilli Khomeini parce que, sous-entendu, que c'était le peuple iranien qui voulait accueillir le régime islamique, mais à la fois, il y avait beaucoup d'avantages, beaucoup d'enjeux économiques qui étaient derrière, qui voulaient le coup d'accueillir justement ce régime dans le Moyen-Orient. Moi, je pense personnellement, l'Europe était au courant de crises qu'il pouvait avoir dans le Moyen-Orient au fur et à mesure pour en profiter de la situation géographique d'Iran. Malheureusement, je ne veux pas forcément intervenir sur les partis qui font des décisions. C'était justement des partis gauche qui nous ont soutenus au début de notre mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la situation en Iran, c'est un problème que sur le hijab, que sur la manière vestimentaire. Et quand, face à ça, nous avons, pour vous dire, jamais on a eu, très très peu, au début un petit peu, on a eu le soutien des féministes. Pour enchaîner avec le sujet, justement, au début, on a eu parce qu'on partait dans la rue, on disait « femme, vie, liberté, nous, nos femmes, nos filles, nos gamins, ils sont en train de torturer, beaucoup de pression et tout, et éventuellement, mais à partir du moment où on a dit « Ok, la première ligne de cette révolution, c'est des femmes, bien sûr, mais notre révolution, notre mouvement, ce n'est absolument pas un mouvement féministe. » À ce moment-là, les féministes, ils n'étaient pas forcément pour et pas forcément avec nous, et éventuellement les extrêmes gauches qui ont arrêté complètement de nous soutenir.
Je voulais quand même avoir votre avis sur l'avenir politique de l'Iran. On a vu qu'en 2023, il y a eu, c'était en juillet 2023, le sommet mondial pour un Iran libre. Est-ce qu'il y a une opposition éventuelle, démocratique en Iran ou ailleurs, qui serait susceptible à un moment donné de prendre le pouvoir? Est-ce que les Iraniens sont optimistes quant à l'avenir, et comment vous percevez cet avenir-là?
Alors, dans tous les cas, il faut que je vous dise, ce n'est pas avec cette guerre, avec l'Iran, Israël ou une autre guerre, l'Iran ou les États-Unis, que la situation en Iran va changer. La situation en Iran va changer le moment où le peuple décide vraiment de bouleverser ce régime. Sur le sujet d'alternative ou sur le sujet de changement de régime, changement d'État, changement de gouvernement, dans tous les cas, ça sera les gens qui sont dans le pays qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, plus en plus, on entend la voix de peuple en Iran, dans le pays, qui appelle le fils de Shah, éventuellement Reza Pahlavi, qui se présente aussi le délégué, un petit peu l'avocat du peuple iranien. Et je pense que nous n'avons pas en ce moment quelqu'un d'autre plus mature dans la politique, qui s'y connaît bien et qui s'y connaît bien son pays. La politique et aussi la situation géographique. L'Iran, stratégiquement, c'est très, 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 très important de bien se rendre compte. L'Iran, comment se positionne? Et il faut aimer le pays pour pouvoir décider pour après. Donc, il faut un moment décider, il faut un moment tourner la page et finir. Je pense qu'ils seront complètement prêts à s'adapter, parce que l'oppression est tellement énorme en Iran aujourd'hui que personne ne veut plus le vivre. Les gens, ils sont prêts à mourir de faim, mais plus vivre cette oppression.
On vous sent très motivé et très enthousiaste. C'est assez surprenant d'ailleurs, hein, pour quelqu'un d'aussi jeune que vous. Comment vous expliquez justement cet enthousiasme que vous mettez à défendre les Iraniens ici en France?
J'ai vécu en Iran, j'ai des amis en Iran, j'ai la famille en Iran, et je porte toujours mon pays avec moi, et j'ai la seule chose que j'ai envie, c'est vraiment de pouvoir retourner et vivre là-bas et voir l'évolution de mon pays. Nous sommes des gens, je ne vais pas utiliser le mot nationaliste, mais nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup notre pays, et on voudrait bien voir à quel point peut évoluer. Donc j'aime mon pays et je fais tout pour qu'il puisse avoir un changement très vite avec une démocratie dans le pays.
Voilà, c'était Angamé Yahyazadeh, porte-parole de l'association toulousaine Le Soulèvement National Iranien. Merci beaucoup à elle. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'Erse.